Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire.
Être trans, c'est ne pas être en accord avec le genre qu'on a assigné à la naissance. C'est-à-dire que moi, ils pensaient que j'étais une fille, mais en fait, non.
Cette morale ne nous convient pas. La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas. La société, donc, ne nous convient pas non plus.
Lundi, c'était la Saint-Valentin. Vous savez, les boîtes de chocolat en forme de cœur, les cartes postales cucu avec des cupidons, du rose et du bleu. Et pour celles qui ont le malheur de traverser une période de célibat, parfois une longue période de célibat, la Saint-Valentin, c'est un peu comme Noël pour les sans-famille. Une grande claque dans la gueule en mode t'as raté ta vie ou t'as qu'à traverser la rue, tu trouveras l'amour. Seulement voilà, c'est pas si simple. J'ai pas envie de cracher sur l'amour parce que c'est vrai, c'est beau, c'est chouette. Mais en même temps, c'est quand même le lieu où on reproduit les stéréotypes de genre, parfois même quand on est dans un couple non hétéro. Comme partout, il y a des rapports de force dans les relations sentimentales qui sont rendus complètement invisibles par notre culture du romantisme amoureux. Merci l'éducation, merci l'école, merci Disney. On croit souvent que l'amour va nous réparer, nous réaliser, nous transfigurer. Et en fait, c'est pas toujours ce qui se passe. Regardez toutes ces femmes brillantes en littérature, en sciences, dans les arts, en politique, dont le génie a été capté par leur mari ou leur amant. Peut-être parce que dans notre vision de l'amour, la femme doit être une petite chose. Et en gros, aujourd'hui, on a complètement oublié leur rôle, alors que leur grand homme, là, à côté, c'est lui qui occupe toute la place dans nos récits. Hitchcock, Fitzgerald, Lavoisier, Rodin, Delaunay, derrière le génie, cherchaient la femme. Mais parfois, il n'y a pas d'homme à côté, et la femme brillante, elle a disparu quand même. Il faut croire que l'histoire s'écrit avec un phallus ou avec une gomme, et que les femmes n'y ont de place que collées de force à un homme. Première femme accueillie en 1980 à l'Académie française, Marguerite Yourcenar s'y décrivait accompagnée d'une troupe invisible de femmes qui auraient dû peut-être recevoir beaucoup plus tôt cet honneur, au point que je suis tentée, disait-elle, de m'effacer pour laisser passer leur ombre. Sortir les oubliés de l'ombre, non mes genres, saison 3, épisode 6, on essaie de comprendre les mécaniques de l'invisibilisation.
Comme un siège à l'Alabama, qui passe d'un bleu paisible à des nuages d'effroi, flamboyante, indocile, inspirante et sans loi, excessive assassine, elle danse, elle fume, elle boit, Zelda. C'est toi qu'elle a choisi, toi et tous les autres. Jamais tranquille, elle a ses apôtres. De jalousie violente comme un tomahawk, emporte ta raison et muselle ses mots. Zelda, oh Zelda. Tu lui en veux, tu ne veux Dieu que pour toi. Tu t'aimes du Charleston, du talent, elle en a. Elle te fascine, la garçonne, tu vois les signes, son combat. Doucement, elle devient folle, si près, si loin de toi. Zelda, ton connerie à New York et de Nice à Paris. Vive l'aventure des paillettes à quel prix. Vive au orage transi, à la scène comme à la ville. Un éternel conflit, une inséparable idylle. Zelda, Scott et Zelda.
Monsieur, mes genres.
Une émission hors norme.
Alors, vous venez d'écouter dans mes genres Zelda, des Brigitte Zelda, qui évoque non pas le personnage de jeu vidéo, mais la femme de Zelda.
Ouais,
Zelda,
mais tu sais que c'est le même parce que le jeu vidéo, exactement, il rend hommage à Zelda Fitzgerald, en fait.
Tout à fait.
Zelda Fitzgerald, du coup, qui est collé, alors qui est accolé sans arrêt à son mari, hein, Francis Scott Fitzgerald, l'auteur de Gatsby le Magnifique, roman qui décrit les années folles aux États-Unis, roman paru en 1925 et qui s'inspire beaucoup de la vie de ce couple mythique qui a incarné à la fois la folie et les excès et la fête, l'alcool, etc. Ça s'est pas très très bien fini pour tous les deux, hein. Ils ont une vie assez courte. Zelda, elle meurt en 48, Francis, il meurt en 40, ils ont 40 ans à peu près. Et ce qui est frappant, en fait, quand on regarde sa trajectoire, c'est que celui dont on se souvient, c'est de lui. Mm. Et qu'il n'y aurait pas eu de Francis Scott Fitzgerald sans Zelda, en fait. Parce que d'abord, elle lui apporte l'argent, elle lui apporte... c'est une fille rebelle avant même de le rencontrer.
La première garçonne, on dit d'elle.
Ouais,
de New York,
aux États-Unis, ouais. et qu'elle c'était une artiste, en fait. C'est une artiste qui a pas trouvé sa voix, en fait.
Ah, et qui voulait être danseuse.
Elle a essayé la danse, elle écrivait, elle a écrit une autobiographie, Accordez-moi cette valse, en 1932. On pense, alors moi j'ai pas regardé à fond cette question-là, mais que dans l'écriture, en fait, Francis Scott s'est beaucoup appuyé sur elle, elle a relu beaucoup de ses papiers. Et ce qui est frappant, moi, en regardant la fiche Wikipédia, c'est qu'elle est encore présentée comme l'épouse et l'égérie de Francis Scott Fitzgerald. Ce qui est, alors, l'égérie, ça nous ramène à l'émission de
Il y a un mois, en fait,
sur les inspirantes. En fait, c'est le côté sexiste des inspirantes. C'est l'égérie, c'est la femme qui va, en fait, qui va aider l'homme à accoucher de son propre talon, mais qui va être là uniquement pour lui.
Mm. Exactement. C'est une forme de
poursuite comme la lumière là. Et l'égérie, en fait, ce qui est frappant, c'est quand on regarde l'étymologie, c'est la nymphe. Donc ça ramène la femme à une petite chose un peu fragile.
Fonction séduisante.
Ouais. Et donc aujourd'hui, ce soir, alors on enregistre en
différé,
pas le soir, mais on va faire comme si c'était demain soir. Ce soir, on va pas faire la liste exhaustive parce qu'il nous faudrait toute la journée et on peut pas bloquer le studio de Radio Alpa toute la journée. Donc on a choisi quelques figures de femmes de l'ombre, de femmes qui ont été invisibilisées. Et donc la première, c'était Zelda Fitzgerald. Et moi, j'ai découvert en préparant ça que le jeu vidéo Zelda, ça lui rendait hommage. Et la deuxième dont je voulais parler, c'est Alma Reville. Ça te dit quelque chose, toi, Suzy?
Non.
Et moi non plus, ça me disait rien. En fait, c'est la femme d'Hitchcock. Alors, Reville, c'est son nom de jeune fille. Après, elle s'est appelée Alma Hitchcock parce qu'ils étaient mariés. Et Hitchcock, alors le génie, hein, quand même, quand on aime le cinéma, Hitchcock, c'est un génie. Et on découvre dans un documentaire qui est encore disponible, je crois, jusqu'à fin février sur Arte, on découvre que ses œuvres, elles ont été écrites à quatre mains et pas à deux.
Hitch gravit les échelons et prend de l'assurance. Il devient assistant réalisateur, scénariste, décorateur et directeur de production, cumulant parfois tous ses postes sur un même film. Mais il n'ose toujours pas aborder Alma, qu'il croise pourtant quotidiennement. Du haut de ses 1m50, la jeune femme l'impressionne. Elle s'est déjà fait un nom et a eu droit aux honneurs de la presse qui l'a décrit comme une pionnière occupant une position unique dans le cinéma européen. L'article conclut qu'elle n'a jamais eu le temps de se marier. Hitchcock se lance et lui propose un poste de monteuse et assistante réalisateur sur un film de Graham Cutts. Plus tard, confie Alma, il m'avouera que c'était le seul moyen qu'il avait trouvé pour me parler tous les jours. Un tandem d'exception se met en place. Dès ce premier tournage, ils assurent ensemble l'essentiel de la mise en scène, le réalisateur en titre ne se révélant pas des plus compétents.
Wow, Voilà, et donc quand on regarde le documentaire, on voit bien que l'œuvre d'Hitchcock, elle a été construite, d'abord elle commence vraiment, c'est bien dit là, avec ce tandem, il s'appuie d'ailleurs beaucoup plus sur sa force que c'est plus dans ce sens-là que ça marche que dans l'autre sens. Et donc Alma, une fois qu'elle est avec Hitchcock, elle va se mettre au service de l'œuvre de son mari, et elle va toujours être une collaboratrice essentielle, en fait. Même quand il réalise Psychose, c'est elle qui relie les scénarios, qui l'aide, qui le soutient. Enfin, elle fait pas que le soutenir, elle coopère vraiment dans l'œuvre. Voilà. L'autre figure qu'on pourrait évoquer, c'est Sonia Delaunay. Alors, c'est là, on est en peinture. Sonia Delaunay, elle est née en 1885, en Russie. Enfin, c'est l'Ukraine, mais c'était la Russie à ce moment-là. Et elle est arrivée au début du siècle à Paris. Elle a connu la bohème parisienne, et puis elle s'est mariée avec Robert Delaunay, et elle lui a survécu assez longtemps, parce que Robert, il est mort en 41 et elle en 79. Donc je pense qu'elle doit sa survie alors d'abord à ses œuvres, hein. c'est une peintre, Sonia Delaunay, et c'est une des premières qui s'est lancée dans l'abstraction. Voilà, juste avant la Première Guerre mondiale, c'est le moment où on commence l'abstraction, où l'abstraction commence un petit peu. Mais quand on regarde dans les histoires de l'art, souvent l'abstraction, on la résume à trois noms: Malevitch, Mondrian, Kandinsky, et rarement Sonia Delaunay. Et voilà, alors d'une part, elle est pas dans ce récit-là. Alors un tout petit peu depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, on redécouvre son œuvre, on la réhabilite, mais elle a longtemps été associée à son mari, et donc elle venait en second. Alors que maintenant, on est assez d'accord pour dire que c'est plutôt elle qui l'a inspiré que l'inverse. Et puis alors, il y a quelque chose de marrant, en fait, c'est que elle était assez en avance sur son temps, Sonia Delaunay. Elle voulait mettre de l'art partout. Elle voulait faire des tapis avec ses motifs de couleurs. Il y a un travail vraiment sur la couleur chez Sonia Delaunay. Et puis je crois qu'elle a décoré des voitures. Et ça, en fait, ça l'a desservie, parce qu'il y a des critiques d'art qui ont reproché à sa démarche de pas être authentiquement de la peinture. Enfin voilà,
de se dévoyer l'art, quoi.
Voilà, c'était pas pur. C'était un peu, moi je pense que c'était un peu des trucs de bonne femme, hein, pour eux. C'était de l'art ménager, en gros, puisque le tapis, les robes, elle a fait des vêtements. Voilà, des accessoires de mode, donc c'est des trucs de bonne femme, c'est pas de l'art. Voilà, donc depuis quelques années, on redécouvre son œuvre. Mais ce qui est frappant, en fait, c'est que quand j'ai regardé les affiches qui présentaient ses œuvres, donc dans les années 20, 30, 40, elle est présentée comme Sonia Delaunay-Terck. Donc elle a encore son nom de jeune fille. Et aujourd'hui, en fait, quand il y a une exposition à Paris ou ailleurs, souvent à Paris, elle est réduite à son nom d'épouse. Donc c'est amusant, ça.
Marianne Pierrette-Pols, refusant un mariage arrangé par son grand-oncle, épousa à l'âge de 14 ans Antoine Laurent de Lavoisier, avec qui elle partageait les goûts scientifiques et artistiques. Élevée dans un couvent, elle avait reçu une bonne éducation classique. Elle avait appris la chimie et les langues et pouvait mesurer l'intérêt des publications des savants étrangers. Comme s'en plaindra amèrement Gay-Lussac, les savants ne parlaient alors pas les langues étrangères. Elle les recevait dans son salon de l'Arsenal, devenu le centre d'une vie scientifique et intellectuelle intense. Elle traduisit ainsi un essai qui excitait la réflexion des chimistes et des physiciens. Cette théorie, émise par Stahl au début du XVIIIe siècle, expliquait la combustion par la présence dans les corps combustibles d'un principe de feu ou phlogistique. Elle fut saluée par Kant, la raison doit forcer la nature à répondre à ces questions. Comme l'indique sa préface, la traduction de Marianne permit à Lavoisier de connaître de la manière la plus claire et la plus précise les idées de M. Kirwan. Avec l'aide de sa femme, Lavoisier combattit le phlogistique en mettant en évidence le rôle de l'oxygène. Kirwan, prenant alors connaissance des objections, abandonnera cette théorie. « Je mets bas les armes et j'abandonne le phlogistique. » Les registres de laboratoire de Lavoisier sont riches de notes et remarques de la main de Marie-Anne et témoignent qu'elle fut bien plus qu'une épouse de chimiste ou qu'une assistante. Les dessins du matériel et des expériences sont tous de sa main et sont une merveille de précision et de finesse, illustrant un raisonnement expérimental d'une rigueur sans faille. Marianne Pierrette collabora étroitement et efficacement avec son époux, même après sa mort. Elle reprit, pendant son incarcération et après son exécution par la guillotine en 1794, le projet de publication de l'intégralité de ses mémoires dispersées. Seuls parurent deux volumes pour lesquels elle écrivit une introduction.
Donc voilà, donc là on est passé à la science, on reviendra à l'art juste après. Donc voilà, Madame Lavoisier, là encore, c'est une authentique scientifique qui a survécu à son mari. Hein, dans l'extrait, on a l'impression qu'elle continue ses travaux après avoir été guillotinée. En fait, c'est pas possible.
Trop forte ta meuf, quoi.
Ouais. c'est une warrior.
Ouais.
En fait, c'est Lavoisier qui est guillotinée. Elle, je crois qu'elle meurt en 1836. On peut citer aussi à cette époque-là Émilie Duchâtelet, alors qui est pas une scientifique à proprement parler, mais qui accompagne les philosophes des Lumières. Mais quand on parle des philosophes des Lumières, il n'y a que des personnages masculins qui apparaissent. Et d'ailleurs, ils sont souvent très sexistes. Hein. Voltaire et Rousseau, voilà, faut lire ce qu'ils racontent sur les femmes. Si on revient à l'art, donc il y a un personnage incontournable. Ah oui.
C'est saisissant. C'est de l'alchimie. C'est de la féerie. L'artiste n'a qu'à en croire ses yeux. Qu'est-ce qu'il y a que je n'ai pas?
Mais dis-le moi que c'est moi que tu aimes. Tu m'aimes.
Je veux Camille à Paris. Nuit comme jour, elle peut tout travailler. De la boue à la pièce, c'est la plus grande marbrière que j'ai jamais eue.
J'ai l'impression que depuis que tu connais Monsieur Rodin, tu ne travailles plus du tout pour toi-même.
Ce n'est pas vrai. Il est plus préoccupé de mon avenir que moi. J'ai appris à travailler plus vite avec lui.
Ma fille n'a pas attendu de rencontrer Monsieur Rodin pour exister.
Tu cherches la douleur. Tu t'enivres de douleur. Tu la fabriques, la douleur.
Mais tu m'as tout volé! Tout! Ma jeunesse, mon travail, tout! Mademoiselle Claudel, l'élève de Rodin, Mademoiselle Claudel fait du Rodin, Mademoiselle Claudel ramasse les miettes du maître! Bravo!
Mademoiselle Claudel est désormais un maître.
Voilà, le magnifique film de Bruno Nuitten, sorti en 1988 et qui doit beaucoup, je crois, à la volonté d'Adjani, de mettre en lumière, en fait, cette figure complètement oubliée. Je crois que jusqu'au film, on en parlait très très peu de Camille Claudel. Et ce qu'on voit en négatif, c'est aussi le côté, le vampirisme, on pourrait dire, de tous ces génies. Hein. Là, de Rodin, mais on peut parler de Picasso, il y a Victor Hugo hein, aussi, autour de lui. Il y a beaucoup de femmes qui ont fait les frais de ces génies qui... Voilà.
Et puis, on peut rajouter sur Camille Claudel qu'en plus d'être... la femme à l'ombre de Rodin, ça a été une femme qui a été carrément mise à l'ombre pendant toute la fin de sa vie.
Oui.
Déjà méprisée par sa mère et sa famille, sauf par son frère, qui est aussi une figure qu'on connaît, un poète, hein, c'est ça, écrivain, ouais. qui malgré tout lui rendra visite très souvent puisqu'elle finira, elle passera, je sais pas, mais 40 ans de sa vie dans un hôpital psychiatrique.
Ouais.
Donc jusqu'à sa mort, mort par faim, sous nutrition. Et donc voilà, elle était seule. C'est trop triste sa vie.
Ouais, et puis souvent les femmes de talent comme ça, alors c'est, on peut faire le parallèle avec Zelda hein, parce que Zelda elle est diagnostiquée schizophrène, alors c'est pas la même période mais enfin c'est un peu les mêmes logiques de relégation hein, aussi, et souvent les femmes de talent elles sont renvoyées soit à la passion. C'est un peu le cas dans le film quand même, on l'entend dans la bande-annonce, soit à la folie en fait. C'est des femmes inadaptées du coup qui versent dans la folie, du coup on les met dans les asiles, quoi.
Voilà.
Et pour finir, donc, alors c'est pas une femme, c'est pas tout à fait une femme d'eux, là, pour le coup, mais c'est quand même une femme qui s'est fait voler sa renommée, son œuvre,
ouais.
Quasiment, son travail. C'est Alice Guy qui est redécouverte depuis quelques temps. Là, pareil, il y a un documentaire qui est disponible jusqu'au mois de mars sur Arte, qui avec une avec Agnès Bacri, Agnès Jaoui.
Ah ah, le lapsus de ouf. Ah ouais, quelle horreur. Comme quoi là, on est toujours sur la femme de. Oh là là, mon Dieu, vers quand.
Ouais, je suis désolé. Agnès Jaoui en voix off. Agnès Jaoui, si tu nous entends, je suis désolé. Voilà, donc Alice Guy qui est la première femme cinéaste et qui s'est fait voler entre guillemets hein, son œuvre à la fois par son mari qui l'a entraîné sur d'autres routes et puis par son employeur. Gaumont.
Sur ces images, c'est elle, Alice Guy. Insouciante, gaie et rieuse, elle a 22 ans et ignore tout du merveilleux et tragique destin qui l'attend. Première femme derrière la caméra, première réalisatrice et productrice de films de fiction, la curiosité, l'inventivité, le regard particulier d'Alice Guy sur le monde ont façonné les débuts du 7e art. Pourtant, son nom a été rayé de l'histoire du cinéma.
Je crois qu'il y a une erreur dans l'histoire du cinéma.
Oui, malheureusement.
Son œuvre, considérable, est longtemps restée introuvable. Plus de 500 films perdus, détruits ou attribués aux hommes de son entourage qui ont souvent laissé faire.
Oh, ils m'ont fait des crasses.
Vous avez encore des films que vous avez tournés? Vous en possédez encore?
Malheureusement, on n'en retrouve pas.
On n'en retrouve pas?
Non, mais moi je les retrouverai.
Male chauvinistic engineer.
Right on, sister.
Lost our green land. We lost our green air. We lost our true wisdom.
Alors, je ne sais pas si les auditeuristes de Non Mais Genre ont reconnu ce titre et l'artiste qui l'interprète. Bertrand, tu vas savoir, puisque tu as préparé l'émission avec moi.
Ouais, tu veux que je dise ?
Il s'agit de...
Yoko Ono.
Eh oui, une femme de... C'était indispensable que j'en parle dans cette émission, consacrée donc aux femmes d'hommes et aussi aux femmes de l'ombre et invisibilisées. Donc Yoko Ono est cachée hein, par John Lennon. On pense que elle aussi, ça a été une égérie. Sauf que déjà, c'est une artiste à part entière avant sa rencontre avec John Lennon. Elle est issue d'une famille donc plutôt bourgeoise, hein, nippone, au Japon, qui l'éduque à plein d'instruments de musique. Elle a une connaissance artistique et musicale très très développée. Elle va aller aux États-Unis pour développer son art et ses performances. Elle va se rapprocher aussi d'artistes de l'avant-garde, la Monte Young, avec notamment des musiciens comme John Cage. Et c'est là qu'elle va organiser des expos, concerts. Et c'est là qu'elle va aussi rencontrer donc John Lennon. Donc elle va accompagner dans la suite de sa carrière après les Beatles. Ils vont produire ensemble des albums. Elle va aussi être là pour créer avec lui, pour développer une musique complètement chelou. Là, on est dans un registre avec Sister, Oh Sister, un titre de 72. Qui fait un peu pop, mais elle va avoir des trucs mais complètement expérimentaux avec 2 minutes de silence dans un album. Je jure, ils vont produire ça.
Et
tous
du
les
coup,
deux.
C'est elle plutôt qui va l'entraîner vers des comment dire,
oui.
Des expériences un peu avant-gardistes.
Tout à fait. Voilà. Ouais. ou sinon des cris. C'est elle qui va aussi introduire dans ses morceaux pas mal de cris. Voilà, elle va crier. Et puis
ça fait du bien hein, parfois.
Bah ouais, carrément. Ouais. Et donc dans ce titre là, Sister oh Sister, bah du coup elle invoque ses sœurs, les sœurs, mes sœurs, réveillez-vous maintenant, il n'est jamais trop tard pour crier tout en cœur. Oh liberté, liberté, c'est pour toi que nous nous battons. Et oui, mes chères sœurs, nous devons apprendre à nous battre. Donc c'est aussi, elle a intégré dans ses compositions un registre politique féministe qui va l'accompagner toute sa vie. Hein. C'est pas genre un morceau d'un album dans les années 70. C'est vraiment toute sa vie. Sur un autre album, elle va donc produire pratiquement seule ses morceaux. Elle va juste mobiliser des musiciens qui l'ont accompagnée, notamment John Lennon, mais vraiment comme si c'était un musicien lambda. Donc ça va être sur l'album Feeling the Space. Et puis avant d'enchaîner sur ce dernier titre de Yoko Ono, Woman Power, évoquer le fait que elle produira mais je sais pas combien de temps d'albums, peut-être 15 albums solo. Sans John Lennon. Ça aurait été difficile pour lui d'ailleurs. Mais elle va également avoir des collaborations, et notamment en 2012 avec d'autres artistes qui se sont inspirés de sa musique. Il s'agit de Kim Gordon et Thurston Moore de Sonic Youth. Ils vont même produire ensemble un album qui s'appelle Yoko Kim Thurston. Mais tu vois la contraction de trois énormes stars du rock. Et voilà, Yoko n'est pas que la femme de John Lennon. Et même pour tout son travail artistique de performance, elle est vraiment à redécouvrir pour ceux qui n'ont que survolé la personnalité, ou vraiment à aller découvrir ce qu'elle a pu faire de complètement transgressif également. Donc voilà, quelqu'un qui confère aux femmes un peu plus de pouvoir. Et c'est pour ça que nous allons nous écouter Woman Power de Yoko Ono.
You heard of Woman Nation? Well, that's coming, baby. What we need is a power of trust that it's coming. You've heard of love selection? Well, that's how we're gonna do it, baby. We allow men who wanna join us. The rest can just stay by themselves. Thank you.
Et vous venez d'écouter dans Nom et Genre Woman Power de Yoko Ono. Du coup, on va juste, je voulais évoquer un autre personnage du rock. Elle s'appelle, contrairement à son nom de scène, Nico. Alors, elle s'appelait pas comme ça au départ. Je n'ai plus son prénom, mais elle est d'origine allemande et on la connaît d'abord comme actrice, comme mannequin. Ensuite, elle va à New York et c'est là qu'elle va se faire repérer par la bande à Warhol et Warhol va la propulser à la tête du Velvet Underground. Velvet Underground, donc, qui comporte également une autre femme, Moe Tucker. Et du coup, Nico, on la connaît pour sa participation au Velvet Underground. Et elle va quitter le Velvet Underground, notamment parce que Lou Reed devait vouloir prendre trop de place à son dépens, à sa place. Et elle va ensuite entamer une carrière solo. Je vais du coup lancer un petit son. Une carrière solo qui se caractérise surtout par une musique très expérimentale. On considère en fait qu'elle a un peu déstructuré le rock en y enlevant les instruments classiques, hein, basse, guitare, batterie, pour lui en mettre d'autres, notamment l'harmonium avec lequel elle va s'accompagner beaucoup pour les concerts et pour composer, puisqu'elle composera également de nombreux albums. Elle en fera, je crois, 6. Et du coup, voilà, c'est Nico avec un univers qui emprunte aux musiques d'Europe de l'Est traditionnelles. Et beaucoup de personnes se reconnaîtront dans sa musique, notamment des groupes mythiques des années plus tard, hein, de la noise, on va dire. Voilà, donc ça, c'est Nico. On écoute un tout petit extrait de All That Is My Own.
Vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3 et vous écoutez Nom et Genre, et ce soir on parle des femmes de l'ombre. Et donc la question qui se pose, parce qu'on là on a énuméré pas mal de femmes dans plein de domaines, les sciences, les arts, la peinture, la musique, on vient d'écouter des morceaux de ces femmes qui ont été mises un peu, enfin qui ont été en grande partie invisibilisée. La question, c'est comment ça fonctionne, l'invisibilisation, d'où ça vient. Et j'avais envie d'écouter Titiou Lecoq, parce que j'ai lu son bouquin il n'y a pas longtemps et je voudrais le recommander aux auditeurs. Donc le bouquin, c'est Les Oubliés, les femmes dans l'histoire, quelque chose comme ça. C'est un livre qui est écrit de manière très très alerte, ça se lit très très bien, et où elle refait un récit, elle refait une place en fait aux femmes dans le récit historique, et ça déconstruit pas mal en fait l'image qu'on a de l'histoire traditionnelle.
Certaines étaient très très connues à leur époque. Par exemple, Catherine Bernard était une grande dramaturge qui avait un immense succès. Brunéo, c'était une reine de France que tous les élèves du 19e siècle connaissaient par cœur. Elles ont été toutes effacées de notre histoire et dans les livres d'histoire de nos jours, les élèves ne les rencontrent jamais. Elles ont été effacées par plusieurs mécanismes. Il y a la malveillance très concrète, à savoir que quand, par exemple, les femmes artistes, on a commencé à faire des anthologies, on s'est dit, ouais, mais en fait, les femmes, non, ce qu'elles font, c'est moins bien. Puis souvent, elles n'ont pas écrit toutes seules, ou pas sculpté toutes seules, ou pas peint toutes seules. Donc, on les a effacées vraiment délibérément. Après, il y a d'autres mécanismes qui sont moins clairement malveillants, qui est notamment le 19e siècle avait une vision où la femme, sa place naturelle, c'était la maison. Et donc, on s'est dit, bah, puisque sa place naturelle, ça veut dire qu'elle y a toujours été. Et quand on a découvert, par exemple, la préhistoire, les historiens se sont dit, eh ben, forcément, les gens à cette époque devaient vivre comme nous, c'est-à-dire que les femmes restaient dans la grotte à s'occuper des enfants. Et c'est un peu une vision qu'ils ont projetée ensuite aussi sur le Moyen-Âge, en se disant, bah, en fait, au Moyen-Âge, oui, elles ne devaient pas avoir le droit de faire grand-chose. Et nous, on est les descendants de ça, c'est-à-dire qu'on pense toujours qu'on va vers le progrès pour ce qui concerne les femmes, qu'on va vers un mieux et que chaque période, on gagne un peu de droit. Et en travaillant sur l'histoire des femmes, je me suis rendu compte que c'était faux et qu'il y a des périodes de l'histoire de France où les femmes ont perdu des droits et perdu en liberté et d'autres périodes où elles en ont gagné. Alors, par exemple, au Moyen-Âge, on peut imaginer, quand on dit Moyen-Âgeux, c'est toujours un peu sombre, ténébreux. Pour les femmes, c'était plutôt une bonne période, le Moyen-Âge. Elles étaient partout, elles pouvaient faire à peu près tous les métiers. On les trouve comme sur les chantiers pour bâtir les cathédrales. On les trouve comme troubadours. Et puis, au moment de la Renaissance, il y a ce qu'on a appelé, ce que les historiennes appellent le grand renfermement. Et là, on va les exclure, mais des lois vont passer. Donc, on commence à faire déjà des lois au niveau de tout le territoire. On va dire, elles n'ont plus le droit d'exercer tel et tel métier. Et en parallèle, il y a une espèce d'idée de les femmes sont fragiles et donc le diable peut les séduire, etc. Et ça va être le début des chasses aux sorcières, qui correspond en grosso modo à la Renaissance, qui est la période dont nous, on nous a appris qu'elle était magnifique, que c'était le moment d'humanisme, de progrès intellectuel, etc. Mais en fait, si on prend le prisme des femmes, c'est pas du tout une période de progrès. C'est une période, au contraire, de perte et de danger pour elles. En fait, toutes les périodes historiques, on les a regardées en se disant que forcément, c'était les hommes qui avaient fait l'histoire. Quelque chose d'assez frappant en histoire, dans la recherche historique, c'est que si on ne trouve que ce qu'on cherche. Et donc, pendant longtemps, on n'a pas cherché les femmes puisqu'on postulait qu'elles n'avaient rien fait. Et quand les historiennes des années 1970, féministes, ont commencé à se lancer dans la recherche, elles se sont dit, mais tiens, on va quand même vérifier. Elles sont allées chercher les femmes dans les sources et elles les ont trouvées. Donc, elles les ont trouvées dans les registres de métiers, donc au Moyen-Âge. Elles ont découvert qu'elles étaient partout dans la société. On commence à se rendre compte aussi avec les analyses génétiques, par exemple, que des sépultures dont on pensait que c'était des sépultures de l'Antiquité ou de la Préhistoire qui étaient des sépultures d'hommes parce que c'était des squelettes enterrés avec des armes et on fait des tests génétiques, on se rend compte que ce sont des femmes. Tous les progrès commencent effectivement à nous éclairer et on se rend compte qu'on a postulé une histoire qui était en grande partie fausse.
Voilà, donc les hommes ont fait l'histoire et on pourrait ajouter que ça se double de il y a les grammairiens aussi qui renforcent ça au 16e, 17e siècle. Ça, c'est les travaux d'Eliane Viennot. Vous pouvez retrouver sur YouTube. Il y a plein de conférences d'Eliane Viennot là-dessus, sur la grammaire, sur comment la langue a été masculinisée et les grammairiens qui disent non, il faut pas dire autrice, il faut pas dire peintresse, faut pas dire philosophesse. Ces mots existaient en fait au 16e, 17e siècle parce que c'est des secteurs de la vie publique en fait, dont les femmes sont progressivement exclues. Donc tout ça, ça s'est construit. Voilà.
Tout à fait.
Et toi, Suzy, tu as lu une BD dont tu voulais nous parler?
Oui, alors du coup, je reviens un tout petit peu en arrière pour revenir sur les différentes figures de ces femmes à l'ombre, donc à l'ombre d'un homme, ou comme Nico, je ne l'ai pas forcément évoqué, mais c'est à l'ombre d'un groupe et à l'ombre de l'icône qu'elle représentait. C'est-à-dire, c'était Nico pour les, c'était pour ses fans, c'était Nico du Velvet Underground. C'était pas pensable qu'elle avait une carrière solo à faire un rock complètement chelou.
Ouais, l'autonomie est pas possible en fait.
Bah, et puis parce que on va pas reconnaître la femme à cet endroit-là. On va la reconnaître dans un endroit de femme chanteuse hyper belle et tout devant un groupe hyper. Voilà, encore une fois. Et du coup, voilà, ça c'était les figures dans les ces femmes dans le rock que j'ai voulu évoquer. Mais du coup, la BD, oui, que je voulais évoquer, c'est les sentiments du prince Charles. Donc, c'est mon amie Mélissa qui me l'a prêté en me disant « Tiens, tu prépares une émission sur les femmes de... Il faut absolument que tu lises donc cette BD de Liv Stromquist. » Alors, en gros, c'est une BD assez riche, assez complète, ça part dans tous les sens. Il y a à la fois des références à des psychologues, sociologues, des références à la pop culture, et, enfin la pop culture, ou en tout cas à des personnages connus comme le prince Charles. Et en gros, ça explique pourquoi les hommes, surtout en lien avec l'actualité du 14, de la Saint-Valentin, pourquoi les hommes, en fait, sont pas amoureux tout pareil que les femmes. Qu'est-ce qui vient construire dans leur masculinité, un rapport à l'amour qui les met à distance des femmes.
Et des émotions, un peu aussi.
Alors voilà, parce que déjà, l'intime est assigné aux femmes. Et du coup, ils ont besoin, pour construire leur masculinité, de mettre de la distance par rapport à cette caractéristique. Elle dit aussi, donc, Liz Strom, excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à le dire, Stromquist, elle dit aussi que les femmes donc ont été conditionnées pour être dans le soin. Les hommes donc vont garder une distance émotionnelle et qui va entretenir une position de domination. Voilà, et ce qui maintient les femmes dans l'ombre. Et je voulais juste vous lire un petit extrait pour vous montrer à la fois qu'elle vient se nourrir de références de théorie, mais aussi une petite bulle. Donc si je peux. Donc on voit juste un homme, première bulle, un homme et une femme qui se tiennent par la main. Selon la psychanalyste Jessica Benjamin, tout cela s'expliquerait par le fait que l'autosuffisance masculine construite dans une société hétérosexiste ne relève en fait que d'une pseudo-autosuffisance. Donc là, petite astérix, c'est une certaine Layton qui évoque cette idée. Ensuite, on commence à voir l'homme monter sur les mains de la fille, qui lui fait une sorte de courte échelle. Ses études donc sur les couples hétérosexuels démontrent l'existence d'un préalable selon lequel l'homme ne peut fonctionner d'une façon indépendante sans avoir une épouse, une copine, une femme disponible dans les parages. Et ensuite, on voit l'homme sur le dos de la femme qui a les genoux pliés. La relation avec cette femme lui garantit l'autonomie d'action dans la sphère publique. L'homme opère vis-à-vis de la femme une répétition de sa relation avec sa mère. Et là, on voit complètement l'homme sur la tête et les pieds sur la tête et le dos de la femme. D'après Benjamin, ces hommes éprouvent un sentiment d'aliénation de soi dans leur relation avec les femmes. Pourtant, ces relations leur sont indispensables pour accéder à l'indépendance. Et donc, on a la femme qui dit « Comment veux-tu fêter la Saint-Valentin ?» L'homme répond « Mais je ne veux pas fêter la Saint-Valentin, je la déteste, je déteste l'amour, je déteste les sentiments, je déteste les femmes, je déteste tout ce qui intéresse les femmes. Mais par pitié, reste quand même à mes côtés, sinon je vais m'effondrer comme un château de cartes. » Voilà, et je trouvais que cette petite planche venait très très bien illustrer à la fois le lien entre la Saint-Valentin et la relation et l'amour hétéro-normé, mais aussi du coup comment la femme va venir aussi propulser l'homme à une place de domination et expliquer justement le fait que la femme se retrouve dans l'ombre.
Comment elle va se mettre au service en fait, voilà, du grand artiste. Et en fait, quand on regarde dans les couples d'artistes, enfin quand on regarde les hommes artistes, très souvent il y a souvent des couples avec une femme qui est artiste au départ et qui va renoncer ou qui va faire un peu moins. Et tout,
ben
ça,
on parlait de Schumann, il y a
de Clara Schumann.
Ouais. Clara Schumann, il y a non, Schumann c'est la fille. Non mais dans ma tête.
Et c'est la femme, en fait.
Ouais.
Et je trouvais que, en réfléchissant à ce sujet, j'avais l'impression qu'il y avait une réponse qui était dans comment l'histoire s'écrit. Donc, je pense qu'il y a, des critiques qui sont responsables. Là, clairement, j'en ai trouvé un, hein, sur Sonia Delaunay, qui disait, non, elle est trop allée dans la mode et tout. Donc, c'est pas vraiment pas une vraie peintre. Donc, et comme l'histoire est écrite par les hommes, ben, voilà, on met les femmes de côté. Et il y a une explication plus intime, comme tu venais de l'expliquer, et qui est développée par, en fait, c'est exactement le sujet du dernier bouquin de Mona Chollet, en fait, Réinventer l'amour, dont je voulais parler un tout petit peu. Et peut-être on va l'écouter. Elle était sur Mediapart en octobre quand le livre est sorti.
Alors, votre nouveau livre, toujours à la découverte, il a pour titre Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. Vous y décrivez comment, je cite, une forme d'infériorité féminine et, je cite encore, encodé dans les couples hétérosexuels, dans les représentations romantiques du couple idéal, dans la façon dont les hommes et les femmes sont conditionnés d'une certaine façon au sein du couple par leurs rôles sociaux, jusque dans leur intimité, leur sexualité aussi. Par quoi précisément le couple hétérosexuel est-il miné, si on doit résumer, hein, bien sûr, c'est, tout ça c'est dans le livre, mais par quoi il est miné en particulier ?
Je crois que c'est un rapport... C'est un objet singulier, en fait, d'écriture et d'études, parce que c'est une relation où, en fait, deux personnes sont censées s'aimer tout en étant prises dans un système de domination où elles occupent des positions différentes, avec l'un qui bénéficie de privilèges, d'avantages, jusque dans la manière de se concevoir soi-même. En fait, c'est vraiment quelque chose qui nous façonne complètement, c'est-à-dire c'est l'idée qu'on se fait de ses droits, de sa valeur, et les femmes, pour les femmes hétéros, c'est la même chose, quoi. Donc à partir de là, c'est pas du tout évident, en fait, quand on considère l'objet un peu froidement, on dit mais comment est-ce que ces deux personnes peuvent s'aimer en réalité. Je crois qu'effectivement toute notre culture romantique, en fait, est fondée, en fait, sur la sublimation, la romantisation de cette infériorité féminine, de ce rapport de domination. C'est l'érotisation de la domination, en quelque sorte.
Vous dites notamment être aimé, c'est se faire être aimé, et eux, mm-hmm. c'est se faire petite, ne pas trop briller.
Oui. Et oui, c'est vrai. Et pour moi, ça a fait un lien avec Sorcières, parce que au moment de l'écriture de Sorcières, j'avais vu pas mal de ces films qui sont sortis à Hollywood dans les années 40-50, et sur le thème de la sorcière apprivoisée. Et on voit que la sorcière, au moment où elle tombe amoureuse, elle perd ses pouvoirs, en fait. Et c'est comme si elle pouvait pas, comme si une femme ne pouvait pas avoir les deux. C'est-à-dire, soit renoncer à déployer tout ce qu'elle peut être et sa force et ses talents et ses capacités, soit vivre éventuellement une vie sans amour, quoi.
Mona Chollet dans Non mais genre, qui vient un petit peu clôturer nos échanges sur ces femmes de l'ombre. La femme dans un couple, voilà. Est-ce que je résume bien, Bertrand?
Tout à fait, Suzanne. La mécanique de l'invisibilisation, ouais.
C'est ça. Du coup, je voulais finir par une dernière femme dans le rock et plus précisément dans la funk, qui a été invisibilisée. Alors là, c'est encore un autre mécanisme. Elle s'est mise à l'ombre elle-même. Mais avant ça, elle était quand même dans l'ombre d'un autre homme, c'est Miles Davis. Miles Davis qui s'est donc marié à Betty Davis, qui ne donc portait pas ce nom quand elle est née, bien entendu. Betty Davis qui n'est pas une actrice, qui n'est pas Angela Davis, mais bien Betty Davis, une chanteuse donc de soul, de funk, qui a sorti deux albums juste géniaux. Avant de rencontrer Miles Davis, était toute jeune à New York pour faire des études dans la mode. Et puis elle commence par écrire des chansons pour d'autres groupes. Et elle rencontre aussi d'autres grands noms de la musique de cette époque, donc Sly Stone et Jimi Hendrix, qu'elle fera découvrir à Miles Davis. Et Miles Davis va s'imprégner également de cet univers de funk et de rock psychédélique, et qui va l'introduire progressivement dans sa musique. Donc il y a aussi une filiation, elle a aussi influencé du coup Miles Davis. Voilà, c'est Betty Davis, et j'ai choisi un titre à propos pour cette contre Saint-Valentin, j'ai envie de dire, un titre qui s'appelle Anti-Love Song.
No, I don't wanna love you. Cause I know how you are. That's why I've been staying away from you. That's why I haven't called you. Cause I know you could possess my body. I know you could make me scrawl. I know you could have me shaking. I know you could have me climbing walls. That's why I don't want to love you. Cause I know how you are. Sure, you say you're right on and you're righteous. But with me, I know you'd be right off. Cause you know I could possess your body too, don't you? You know I could make you crawl. And just as hard as I'd fall for you, boy, well, you know you'd fall for me harder. That's why I don't wanna love you. Cause I know what you do to my heart. You'd scorch it just like a hot iron. Leave me burning alone in the dark. Cause I know you could make me suffer. I know you could drive me mad. I know you'd just take me in a circle. And when it got real, I know you'd disappear. That's why I ain't gonna love you. Love you.